Le premier conflit mondial était principalement une guerre de tranchées. Une armée attaque et au mieux prend un petit bout de territoire tout en se faisant massacrer. Ensuite, l'armée adverse fait de même et on recommence. C'est aussi un peu ce qui s'est passé en Palestine pendant très longtemps entre la dynastie des Ptolémées en Égypte et ceux des Séleucides en Syrie. Ces guerres sont prophétisées parce que le territoire d'Israël fait partie des enjeux des deux adversaires. Sur le terrain, le roi de Syrie, Séleucus II, a attaqué l'Égypte, mais ayant subi une cuisante défaite, il doit rentrer chez lui où il meurt d'un accident. Je continue de lire dans le chapitre 11 de Daniel. Ses fils se rassembleront et mobiliseront une armée très nombreuse qui submergera tout sur son passage. Ils inonderont le pays. Sur le chemin du retour, ils attaqueront la forteresse. Les fils du roi de Syrie, c'est le plus deux, sont Séleucus III et Antiochus III le Grand, à ne pas confondre avec Antiochus IV Épiphane dont il a déjà été question. Le premier des deux frères étant mort au combat en Asie mineure, Antiochus III poursuit seul la préparation d'une nouvelle guerre contre le roi d'Égypte, Ptolémée IV, fils de Ptolémée III et Vergète, Égyptiens qui occupent alors la Palestine jusqu'à la frontière de la Syrie, sont repoussés par Antiochus, qui envahit également la Phénicie et s'avance, menaçant la forteresse de Raphia au sud de la bande de Gaza, pratiquement à la frontière de l'Égypte. Je continue. C'est alors que le roi du Midi, exaspéré, lancera une offensive contre le roi du Nord. Il mettra sur pied une grande armée et il aura la victoire sur les troupes adverses. Irrité par les succès de son adversaire, le roi d'Égypte, Ptolémée IV, se secoue les puces, aligne ses troupes et attaque Antiochus qu'il écrase à la bataille de Raphia. Je continue. Une fois ses troupes vaincues, il s'enorgueillira et fera tomber des milliers d'hommes. Mais ses triomphes seront de courte durée. Les Égyptiens tuent 10 000 soldats syriens et font 4 000 prisonniers. Et au lieu de profiter de ce succès militaire et de conquérir la Syrie, Ptolémée IV fait la fête, une indolence voluptueuse qui lui fait perdre les fruits de sa victoire. Je continue. Car le roi du Nord mobilisera de nouveau des troupes, plus nombreuses que les premières. Et après quelques années, il retournera en Égypte avec une immense armée et beaucoup de matériel de guerre. 14 ans après la bataille de Raphia, Antiochus, fortifié et enrichi par des campagnes victorieuses en Perse et en Asie mineure, rassemble encore une fois une armée considérable et attaque le nouveau roi d'Égypte, Ptolémée V, qui n'a que 5 ans et parvient à reconquérir la Palestine qu'il avait perdue. Je continue. Ce temps-là, beaucoup s'élèveront contre le roi du Sud. Et des hommes violents parmi ton peuple se soulèveront pour accomplir la vision, mais ils trébucheront. Les soulèvements éclatent dans plusieurs pays soumis à l'Égypte. Philippe V de Macédoine se joint à la Syrie contre Ptolémée V. Partie des Juifs de Judée soutient Antiochus, espérant sans doute se débarrasser de toute tutelle. Mais ce sera le début des malheurs qui affligeront Israël sous la domination syrienne. Je continue. Le roi du Nord viendra donc. Il dressera des remblais de siège contre une ville fortifiée et s'en emparera. Les armées du roi du Midi ne résisteront pas au choc, même sa troupe d'élite ne tiendra pas. Le général égyptien Scopa se réfugie dans la ville fortifiée de Sidon, mais il est assiégé. L'Égypte envoie alors 3 généraux différents pour le secourir, mais ils sont repoussés l'un après l'autre par les Syriens et au final, Scopa doit se rendre. Cette victoire permet à Antiochus de récupérer toutes les positions égyptiennes en Asie et à partir de l'an 198 avant Jésus-Christ, c'est la Syrie qui contrôle la Palestine. Je continue. L'envahisseur avancera à sa guise et personne ne pourra lui résister. Il prendra ensuite position dans le pays magnifique, la destruction dans sa main. Antiochus III décime les Égyptiens, mais il est bienveillant envers les Juifs et contribue même à l'entretien du temple de Jérusalem. Je continue. Il entreprendra alors de venir avec toutes ses forces de son royaume et il conclura une alliance avec le roi du Midi. Il donnera sa fille en mariage dans le but de détruire son royaume. Mais ce plan ne réussira pas et ce royaume ne lui appartiendra pas. Comme en 194 avant Jésus-Christ, Hérode commence à montrer les dents. Antiochus ne veut pas provoquer cette puissance montante en s'emparant de l'Égypte. Alors il ruse. Il offre sa fille Cléopâtre en mariage au jeune roi d'Égypte, Ptolémée V Épiphane. Il n'a que 9 ans, espérant ainsi pouvoir se rendre maître de son pays. Mais Cléopâtre prend le parti de son mari contre son père, ce qui fait échouer son plan. Je continue. Alors il se tournera du côté des îles et s'emparera de beaucoup d'entre elles. Mais en général mettra un terme à son arrogance injurieuse sans que le roi du Nord puisse le lui rendre. Antiochus envahit plusieurs îles de la mer Égée, qui sont alliées à Rome, occupent les rives du Bosphore et la ville d'Éphèse, traverse le détroit des Dardanelles qui sépare la partie européenne de la Turquie, frontière avec la Grèce, du reste de l'Asie mineure. Antiochus marche sur les plates-bandes de Rome qui trouve que ça commence à bien faire et lui adresse un avertissement auquel le roi de Syrie répond de manière injurieuse. Une très mauvaise idée. Les Romains qui viennent de vaincre Philippe V de Macédoine, allié d'Antiochus, lui barrent la route à Thermopyle. Puis, le général romain Dion, l'Africain, le poursuit et l'écrase en l'an 189 à Magnésie. L'année suivante, Antiochus est obligé de signer la paix avec Rome, céder tous ses territoires et payer un énorme tribut. Antiochus ne conserve plus qu'une petite façade maritime en Syrie, car tout le reste de la Méditerranée est sous le contrôle de Rome. Je continue. Ensuite, il reviendra s'occuper des citadelles de son propre pays, mais il tombera, et s'en sera fait de lui. Battu, Antiochus doit mettre un terme à ses conquêtes et songer à remplir ses coffres vides pour s'acquitter du tribut qui lui impose Rome. Il sera alors dans la province d'Élam, située à l'est de Suse, l'ancienne capitale de l'Empire perse, et en juillet 187, il pille le temple de Bélus, mais Antiochus et ses soldats sont massacrés par une poignée d'hommes indignés par ce sacrilège. Je continue. Son successeur enverra un exacteur dans le lieu qui est la gloire du royaume. En peu de jours, il sera brisé, et ce ne sera ni dans une querelle violente, ni dans une bataille. Le successeur d'Antiochus III, le Grand, est son fils aîné. Son règne ne présente rien de particulier, sinon qu'il envoie l'un de ses ministres à Jérusalem pour piller le trésor du temple, afin de payer le tribut aux Romains. Ce roi mort dans des circonstances mystérieuses, probablement empoisonné par son ministre soudoyé, par le futur Antiochus IV Épiphane. Je continue. Un homme méprisable lui succédera sans avoir reçu la dignité royale. Il surviendra en temps de paix et s'emparera de la royauté à force d'intrigues. Il s'agit d'Antiochus IV Épiphane, frère du roi des feux empoisonné. Fils de ce dernier, étant retenu à Rome en otage, Antiochus, qui astucieux et perfide, arrive au moyen de toutes sortes de magouilles de s'emparer de leur royauté qui revient de droit à son neveu. Et prisonnier. Par opposition au surnom Épiphane, que Antiochus s'est donné lui-même et qui veut dire illustre, l'ange lui applique l'épithète méprisable. Et son propre peuple l'appelle Épiphane, qui veut dire fou. Je continue. Les forces adverses qui débordaient, comme l'inondation, seront submergés et brisés par lui. Il tuera aussi un chef de peuple de l'Alliance. Le roi d'Égypte, Ptolémée VI, neveu d'Antiochus Épiphane, par sa mère Cléopâtre, attaque son oncle pour des histoires de dot, mais il est battu et fait prisonnier. Antiochus envahit Jérusalem, destitue le grand prêtre Onias III, appelé un chef du peuple de l'Alliance, le remplace par son frère Jason, qui est un traître. Puis, il emmène Onias III en Syrie, où il l'assassine. Je continue. En dépit de l'accord conclu avec lui, il agira avec ruse, rompant le lien qui l'unissait à lui. Il l'attaquera et remportera la victoire avec une poignée d'hommes. Feignant de l'amitié pour son neveu Ptolémée VI, Antiochus déclare qu'il veut le remettre sur le trône et sous ce prétexte, il pénètre en Égypte. Je continue. En temps de paix, il envahira les plus riches régions de la province et accomplira ce qu'aucun de ses ancêtres n'avait fait. Il pillera le pays et distribuera largement à ses partisans ce qu'il aura pillé, le butin et les richesses dont il se sera emparé. Il fera des plans d'attaque contre les forteresses, mais tout cela ne durera qu'un temps. Dans un sens, Antiochus Épiphane est comme Romain des Bois. Il vole aux riches, mais au lieu de dépenser l'argent pour ses propres plaisirs, comme ont fait ses prédécesseurs, il le distribue aux plus pauvres afin d'obtenir le soutien. Il réussit à occuper Memphis et la Basse-Égypte, dont la fertilité est légendaire, mais il ne peut pas s'emparer d'Alexandrie. C'est sa première campagne contre l'Égypte. Je continue. Rassemblant toutes ses forces et son courage, il lancera une attaque contre le roi du Midi avec une grande armée. Le roi du Midi le combattra avec une armée très puissante et nombreuse, mais il ne parviendra pas à résister à son adversaire à cause des complots dirigés contre lui. Ses familiers causeront sa perte, son armée sera écrasée et beaucoup de ses soldats tomberont frappés à mort. Le roi du Midi est Ptolémée VII, frère du précédent Ptolémée VI, retenu prisonnier en Syrie. Il a été proclamé roi par les habitants d'Alexandrie. Antiochus Épiphane prétend vouloir remettre sur le trône Ptolémée VI, l'aîné de ses neveux, mais en réalité, il a l'intention secrète de s'emparer de toute l'Égypte. En l'an 170, il attaque Ptolémée VII, qui est vaincu parce que trahi par ses conseillers à la solde d'Antiochus. C'est sa seconde campagne contre l'Égypte. Je continue. Quant aux deux rois, ils chercheront secrètement à se nuire mutuellement. Ainsi, ils s'assieront à la même table pour se duper l'un l'autre par des mensonges. Mais leurs tractations ne réussiront pas, car la fin doit venir au temps fixé. Déjà à cette époque, les traités de paix ne valent pas mieux que ceux qu'on signe aujourd'hui. Ces deux rois sont Antiochus et Ptolémée VI, qui sont soi-disant alliés contre Ptolémée VII, le frère VI. Mais en réalité, chacun essaye de tromper l'autre. Les mensonges consistent à des témoignages d'affection et de confiance qui ne sont sincères ni d'un côté ni de l'autre. Mais ils échouent et Ptolémée VII conserve le trône. Je continue. Le roi du Nord retournera dans son pays chargé de grandes richesses et avec au cœur des intentions hostiles contre le peuple de Dieu. Il les exécutera avant de rentrer dans son pays. Après sa deuxième campagne contre l'Égypte, Antiochus ramène beaucoup de richesses, mais ça ne lui suffit pas. Sur le chemin retour, il pille le temple de Jérusalem et persécute sévèrement les Israélites, ce dont j'ai déjà parlé. Continue. Au temps fixé, il se mettra de nouveau en campagne contre le royaume du Midi. Cette expédition ne se passera pas comme la première. À la nouvelle que les deux frères Ptolémée VI et VII se sont réconciliés, Antiochus se sent trahi et attaque l'Égypte une troisième fois. Mais ça se passe très mal, car Rome lui barre la route. Je continue. Des navires venant des côtes de l'ouest de la Méditerranée viendront s'opposer à lui et le décourageront. Il s'emportera de nouveau et agira contre l'Alliance Sainte, et il s'accordera de nouveau avec ceux qui la trahiront. Ce sont des navires de Rome ayant à bord l'ambassadeur Popilius Laena, chargé de transmettre le décret du Sénat romain ordonnant à Antiochus de quitter l'Égypte. Mais quand ce dernier demande un temps de réflexion, Laena trace un cercle autour de lui et dit « Avant de sortir du cercle, tu te décides. Soit tu quittes l'Égypte, soit tu te bats contre Rome. » Fou furieux, Antiochus bat en retraite. Mais pour apaiser sa colère, il attaque Jérusalem le jour du sabbat et dresse un autel païen sur l'autel des holocaustes. Il persécute les Israélites en ayant pour projet de supprimer leur identité juive et de faire de leur pays une colonie grecque. Je continue. Certaines de ses troupes prendront position sur son ordre. Elles profaneront le sanctuaire et la citadelle, feront cesser le sacrifice perpétuel et installeront la profanation abominable. Un contingent de 22 000 hommes, conduit par le général Apollonius, est envoyé à Jérusalem et s'installe dans la forteresse du temple. Sacrifices à l'Éternel sont interdits, des prostituées et des soldats commettent des actes dépravés dans la cour du temple, et des cochons sont sacrifiés à Zeus sur l'autel païen. C'est un avant-goût, d'une part, de la profanation et destruction du temple par les Romains en l'an 70 de notre ère, et d'autre part, de l'abominable profanation qui aura lieu à la fin des temps sous le règne de l'Antichrist. Je continue. Par ses intrigues, il entraînera dans l'impureté ceux qui auront trahi l'Alliance, mais le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu agira avec courage. Il y a deux camps parmi les Juifs. D'un côté, les apostats qui soutiennent la culture grecque, voulue par Antiochus, et de l'autre, ceux qui sont fidèles au judaïsme et à l'Éternel, notamment la famille des prêtres Mattathias, Maccabée, et ses cinq fils qui prennent des armes, se réfugient dans la montagne où d'autres patriotes les rejoignent. C'est le début de la révolte des Maccabées et de la résistance à l'envahisseur. Cette prophétie qui s'est accomplie une fois s'accomplira une deuxième fois à la fin des temps, mais concernera alors tous les croyants juifs et non-juifs de cette époque. Je continue. Les hommes du peuple qui auront de la sagesse enseigneront un grand nombre, mais ils subiront l'épée, le feu, la prison et le pillage pendant des jours. Pendant qu'ils seront ainsi livrés à la mort, ils ne recevront que peu d'aide, mais beaucoup de gens se rallieront hypocritement à eux. Parmi les résistants, beaucoup ne sont pas sincères parce qu'ils se joignent seulement aux Maccabées quand ils sentent le vent tourner ou quand ils voient comment Judas Maccabée punit les traîtres. Plusieurs membres de la famille de Mattathias, Maccabée, et beaucoup de Juifs fidèles périssent dans cette guerre. Je continue. Certains parmi les hommes qui auront de la sagesse tomberont afin d'être épurés, purifiés et blanchis à travers cette épreuve, en vue du temps de la fin, car la fin ne viendra qu'au temps fixé. Ces persécutions permettent de purifier le peuple de Dieu. D'un côté, les martyrs prouvent leur dévouement à l'Éternel, et de l'autre, les traîtres et les déserteurs révèlent leur hypocrisie. Je continue. Le roi agira à sa guise. Il s'enorgueillira et se croira plus grand que tous les dieux, même plus grand que le Dieu des dieux. Il proférera des blasphèmes inouïs contre lui et il parviendra à ses fins. Jusqu'à ce que la colère divine ne soit parvenue à son comble, alors ce qui est déclaré s'accomplira. Il n'aura de considération ni pour les dieux de ses ancêtres, ni pour le désir cher aux femmes, ni pour aucun autre dieu, car il se placera au-dessus de tous. Antiochus a fait frapper des pièces de monnaie à son effigie sur laquelle est écrit Antiochus Théo Epiphane, qui signifie « le dieu manifesté ». Il ne fait pas le moindre doute que ce despote est une vraie peau de vache. Cependant, ce passage a une double application. En effet, à partir d'ici, la prophétie glisse et passe Antiochus 4 Épiphanes, à quelqu'un d'autre qui est simplement appelé le roi. Ce sera un tyran bien plus méchant et cruel que tout ce que le monde a connu. À côté de lui, Antiochus fait même figure d'enfant de cœur. Dans sa seconde épître aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul utilise ce passage pour décrire ce futur roi qu'il appelle l'homme du péché ou de la révolte. Il s'agit de l'Antichrist, le César de la troisième phase de l'Empire romain. Donc, à partir d'ici, la prophétie concerne la 70e septaine de la vision précédente de Daniel. Ce roi est un dictateur pur et dur qui agit indépendamment de toute autorité et au milieu des 7 ans de tribulation, il est élu fureur par une confédération d'au moins 10 États. Il assume aussi le pouvoir total dans le domaine religieux en se plaçant au-dessus de toute divinité et en blasphémant l'Éternel appelé le Dieu des cieux. Il n'aura aucune considération pour les désirs chers aux femmes. Dans le contexte juif, cette expression désigne le Messie, car ce que les femmes juives désirent plus que tout au monde est de donner naissance au Messie. L'Antichrist n'aura aucun égard pour Jésus-Christ, tout en sachant très bien qu'il est le Fils de Dieu. Le monde entier révérera l'Antichrist à cause des miracles que fera le faux prophète en son nom. Ses malheurs arriveront au peuple d'Israël à cause de sa rébellion contre l'Éternel, et afin de le purifier. Je continue. Mais il vénérera le Dieu des forteresses en son lieu. Il rendra un culte à une divinité et non pas comme ses ancêtres, et il lui offrira de l'or, de l'argent, des pierres précieuses et d'autres objets de valeur. Il attaquera des forteresses avec l'aide d'un dieu étranger. Il le comblera d'honneur ceux qui accepteront ce dieu. Il leur conférera le pouvoir sur un grand nombre de l'or et leur distribuera des terres en récompense. Les Romains étaient toujours en guerre, mais n'ont jamais fait Dieu leur puissance militaire. L'Antichrist, par contre, divinisera la guerre. Il créera un complexe militaire industriel phénoménal, car il n'aura de respect que pour la force brutale. Face à la supériorité de ses armées, il conquérera le monde entier. Se proclamera homme-dieu. Il servira quand même un dieu étranger, qui est Satan. L'être humain est conçu pour adorer un créateur, ce qui fait qu'il est forcé d'adorer quelque chose ou quelqu'un. La seule possibilité qui lui est offerte est de choisir devant quoi ou qui va se courber.